La troisième voix dont on a parlé hier soir, je résume très rapidement, mais je vois des visages nouveaux ce soir encore. La troisième voie, c'est d'apprendre à se laisser tout à nouveau conduire par sa voix, V-O-I-X. La multitude des voix et des pensées qui malheureusement résonnent en moi entraîne un combat. Et je dois choisir quelle voix, V-O-I-X, je veux écouter, quelle pensée je veux écouter, de quelle pensée je veux être habité. Jésus dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. » Si j'entendais que la sienne, ça irait. Mais j'entends aussi les miennes de penser, c'est embêtant. Et j'entends aussi celles de l'ennemi. Mais il faut choisir. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » La première chose que la voix de Dieu me dit une fois que le bon berger m'a restauré, une fois qu'il m'a remis sur pied, la première chose que me dit sa voix, avant de me nourrir, avant de me remettre sur des sentiers, c'est ce qu'on a vu hier soir, la voix de Dieu me dit « lâche prise ». Il faut que tu arrêtes de vouloir tout porter, tout gérer, tout contrôler. Il faut que tu lâches prise. Je vous raconte cette anecdote, ça me fait penser à ça. Un jour, il y avait un missionnaire qui, là sur son champ de mission, avait remarqué un petit garçon qui était dans un état de dénutrition bien avancé, qui était extrêmement maigre, qui était sale et qui était là en haillons. Et puis il avait remarqué que ce gamin, bizarrement, il avait les poings serrés comme ça et il avait les mains recroquevillées sur lui en permanence. Alors le missionnaire prend, je ne sais plus dans quel pays c'était, peu importe, le missionnaire va le chercher, le prend et l'emmène tranquillement chez lui. Et puis il essaye de le laver parce qu'il voudrait le faire passer à table, mais avant de le faire passer à table, il voudrait essayer de le laver un petit peu et de prendre soin de lui. Et puis alors qu'il essaie de le laver, le gamin, il veut pas ouvrir ses poings, il a les poings serrés comme ça en permanence. Puis le missionnaire essaye gentiment de lui ouvrir les mains comme ça. Puis le petit garçon, il veut pas, il tient les choses comme ça. Et puis après avoir réussi à le laver tant bien que mal, à l'habiller, il va le nourrir et il le fait passer à table. Comment vous voulez manger les poings serrés? Vous faites comment pour manger quand vous êtes comme ça? Mais quand le petit garçon, il a vu, quand il a compris, il a compris ce que le missionnaire allait faire et où il voulait en venir, et le bien qu'il voulait lui procurer, quand il a vu les mets abondants qui étaient sur la table, le gamin, il a ouvert les poings, il a ouvert les yeux, il a lâché. Et à l'intérieur de ses mains, il y avait deux morceaux, deux quignons de pain rassis. Frères et sœurs, il y a bien des moments dans nos vies. On n'arrive pas à s'alimenter, on n'arrive pas à se nourrir parce qu'il y a des morceaux de quignons de pain rassis dans nos mains et on tient. Et la première chose que le bon berger nous dit, on l'a vu hier soir, il dit « lâche prise, recommande ton sort, lâche ces choses, remets ton sort à l'Éternel, il agira ». David, dans sa détresse au psaume 55, qui est le psaume de la trahison d'Achitophel, dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il prendra soin de toi ». Mais il y a un ordre chronologique. On fait les choses dans l'ordre avec Dieu. Dans le psaume 81, on avait vu ensemble cette parole de Dieu. « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille ». Et rien que quand on dit ça, vous l'avez expérimenté hier soir, je suis heureux de voir tout ce qui est tombé dans la corbeille hier soir, mais quand on dit ça, il y a des combats à l'intérieur. Il se passe des choses parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Et combien de fois, dans des situations ou d'autres, on a dit « Ah frère, j'arrive pas à lâcher ça. J'arrive pas à lâcher mon gamin. » Pourtant, c'est indispensable pour que Dieu agisse. Recommande ton sort, il agira. Rejette ton fardeau, il prendra soin de toi pour qu'il agisse. Dans mes circonstances et pour qu'il prenne soin de moi, il faut absolument que moi je lâche ce que je dois lâcher. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez lâché hier. Mais, je suis content parce qu'il y a des gens qui suivent. J'ai besoin de mon acolyte, Maël, s'il te plaît. C'est pas mon souffre-douleur, c'est mon acolyte. Hier soir, on a vu ça. Mais il y a des gens, ils pensent, il y a des gens vraiment, ils suivent, ça fait vraiment plaisir. Hier soir, on a vu, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Alors décharge-moi, s'il te plaît, parce que je te l'ai demandé, Seigneur, décharge-moi. Et on a vu ensuite cette deuxième étape où Dieu ne peut pas prendre soin de moi et il ne peut pas agir et gérer ce qu'il y a là-dedans, puisque de toute façon, mes mains ont refusé de lâcher la corbeille. D'accord ? Et à un moment, c'est ce que vous avez fait hier soir. Vous avez enfin entendu raison et vous avez fait... Vous avez lâché la corbeille. Tu ne bouges pas parce que tu es là et le Seigneur est très patient. Hein, d'accord ? Et vous avez lâché la corbeille. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit après la réunion hier soir, il m'a dit « Ouais, mais au fait, combien de fois est-ce qu'on a donné quelque chose au Seigneur ?» Et malheureusement, tout le monde dit « Et malheureusement, on l'a repris. » Et la réunion terminée, ah, on était, ah, c'était bien. Ah, merci Seigneur. Ah, on a passé un bon petit moment. Et à la faveur d'une pensée, à la faveur d'un souvenir, merci ma grande, à la faveur d'un coup de téléphone, à la faveur de quelque chose qui va se passer, ça rentre en nous et on reprend le... J'espère que vous n'avez rien repris aujourd'hui, hein, depuis hier. Hein. Ce qu'on a donné au Seigneur, on ne le reprend pas, hein. On ne reprend pas ce qu'on a déposé. J'insiste quand même, je reprécise, lâcher la corbeille quand parfois il faut que je lâche une situation, quand parfois il faut que je lâche ma fille, ou mon gendre, ou je ne sais qui. Ou... Ça ne veut pas dire que lâcher, ça ne veut pas dire que vous fermez votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous fermez la porte de votre maison. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de contact. Ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus. Vos enfants seront toujours vos enfants, quoi qu'ils fassent. Et vous les aimerez toujours. Et ce sera toujours vos petits. Mais ça signifie que vous n'allez plus être écrasé. Intérieurement, vous allez être libre de ce qu'ils feront ou ne feront pas. Vous allez être libre devant Dieu. Ce qu'ils font ou ne font pas, ce qu'ils sont ou ne sont pas encore, ne va pas vous empêcher, vous, de vivre le temps de bonheur, de grâce, d'onction, de bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et ce que les autres sont ou ne sont pas ne doit pas m'empêcher, moi, de vivre quelque chose avec Dieu. Et malheureusement, trop de gens sombrent avec ceux qui sombrent. Et là, vous ne les aidez pas. Hein. Je ne porte plus ce fardeau. La brebis, dans toutes les caractéristiques qu'on a vues, pardon, il y a celle-ci, elle ne peut rien porter. La fourmi est un animal extraordinaire. La fourmi peut porter jusqu'à 7 fois son poids. Les mulets, les ânes, vous pouvez les charger, mais alors... Les chameaux, vous pouvez leur donner un tout petit peu d'eau, ils vont vous porter des tonnes de marchandises pendant 3 jours dans le désert. Mais la brebis, vous n'avez jamais vu un berger mettre quoi que ce soit sur le dos d'une brebis. La brebis ne peut rien porter. Ça vous fait pas plaisir, ça ? La brebis que vous êtes n'est pas appelée à porter quoi que ce soit. Vous êtes juste fait pour vous reposer. C'est bien, non ? Vous êtes fait pour bien manger. Vous êtes fait pour être cajolé par le bon berger. Vous n'êtes pas fait pour porter les problèmes de la terre entière, même si ces problèmes viennent de vos enfants. Ok ? La quatrième voie de restauration, ce quatrième chemin, pour moi, ce qui a attiré mon attention, ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est la table. Il faut absolument être bien nourri. C'est pas le tout d'être remis sur pied. Si c'est être remis sur pied pour rester là où j'en suis, avec tout ce qui m'écrase, je vois pas trop à quoi ça sert que le Seigneur me restaure, c'est-à-dire qu'il me remette sur pied. Il ne va pas falloir longtemps avant que je retombe dans la même ornière ou dans le même fossé. Alors le Seigneur, une fois qu'il m'a remis sur pied, il me décharge, il me dit « lâche ça ». Et je le fais. Mais même une fois que je suis remis sur pied, une fois que je suis déchargé, une fois que j'ai lâché prise, vous avez déjà vu des gens qui sont debout, mais qui sont tout vides, qui n'ont pas à manger? Vous allez aller où avec ça? Comment vous allez faire, avec quelle force vous allez faire face aux défis de demain? Avec quelle force vous allez marcher dans les sentiers? Parce que le berger, s'il vient vous sortir de votre fossé, s'il vous remet sur pied, qu'il vous décharge, c'est pas pour que vous restiez où vous êtes. Hein. C'est parce que vous avez encore des choses merveilleuses à vivre avec lui. Il y a un chemin à pratiquer, il y a des sentiers. N'oublions jamais, l'objectif, le but, c'est les verts pâturages. Le but, c'est les eaux paisibles. Le but, c'est la vie. Étroite est la porte, dit Jésus, resserré est le chemin et qui mène à la vie. Le but, il est là-bas. Et là où tu es, t'es pas dans une plénitude de vie. Et le but du Seigneur, remis sur pied, restauré, déchargé, lâché prise, oui, mais c'est pour avancer. Hein. Ah, ensuite, il faut se nourrir. Et David, dans ce psaume, dit à Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table, c'est une symbolique, évidemment. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais moi, j'aime bien manger. Donc, dès qu'on me dit table, je pense manger, nourriture. Et nous, Français, ça nous convient assez bien, parce qu'on passe quand même, nous, les Français, plus que d'autres peuples en Europe ou ailleurs, on passe pas mal de temps à table. On aime ça. La table, c'est là qu'on se nourrit. La table, elle me parle aussi de communion, parce que quand on est à table ensemble, c'est un temps de convivialité. On invite les gens qu'on aime à sa table et on communie avec eux. C'est convivial, c'est fraternel. La table, c'est vraiment un symbole aussi de communion. Et il faut absolument être bien nourri avant de se remettre en marche. Il faut être bien nourri pour reprendre des forces. Il faut être en bonne condition, c'est-à-dire déchargé, et ensuite bien alimenté. Sinon, si je suis debout et que je reste vide, ça va vite me tourner et... Et il y a des brebis. On les remet sur pied. Elles retombent. Ouais, on les remet sur pied. Ouf, hop, un petit coup de mou. On les remet sur pied. Oh. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La priorité, une fois qu'on est remis sur pied, déchargé, c'est d'être bien nourri. Parce que dans le temps où on était dans le fossé, dans le temps où on n'avait pas quitté le bâtiment église évangélique, association cultuelle, d'accord. Mais dans nos cœurs, d'accord, on était dans le fossé, on était renversé. Pendant ce temps-là, on n'a pas été nourri ou pas bien nourri. On s'est mal nourri. Corée, les fils de Corée, dans le psaume 42, disent dans un temps de détresse, « Mes larmes étaient ma nourriture, jour et nuit. » À quoi s'est résumée ma vie pendant ce temps où j'étais dans le fossé? Ça s'est résumé à des larmes, à de la tristesse. Ça s'est résumé par peut-être de la médisance, peut-être de la colère. Et je vous garantis, la colère, c'est pas rien. Parce que dans le cœur, c'est une véritable infection. La colère, c'est du poison. La médisance, la critique, la calomnie, tout ça, c'est du poison. Un désir de vengeance, c'est un poison dans le cœur. Un joug de culpabilité, c'est un poison dans le cœur. Et pendant tout ce temps, j'ai été mal nourri. J'ai pu être nourri par les pensées mensongères de l'ennemi. Il est indispensable, c'est l'étape logique, c'est chronologique. L'étape suivante, c'est indispensable de trouver ou de retrouver une vraie intimité avec le berger, une réelle communion, une vraie intimité, une bonne nourriture spirituelle. Et là, vous avez compris, vous commencez à me connaître. Je ne vous demande pas combien de chapitres de votre Bible vous avez lu ce matin. Ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire de lecture religieuse ou traditionnaliste de la Bible. Ce n'est pas la lecture qui va assouvir ma bonne conscience. On ne parle pas de ça. On parle de se nourrir réellement de lui. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et mon cœur, mon âme est appelé, non pas à une lecture traditionnaliste ou religieuse de la Bible, mais mon âme est appelée à se nourrir de lui par la foi. Il est le pain de vie. Je me nourris de sa personne. Je rassasie mes regards, on a vu ça plusieurs fois dans les réunions de prière, je rassasie mes regards de sa personne, de cette adoration, de cette contemplation de sa personne. Je me rassasie de sa présence. Je chéris, je cherche, je cultive, j'entretiens la présence du bon berger dans mon cœur. Je me nourris de sa pensée. Je ne vous demande pas combien de chapitres vous avez lus dans votre Bible. Je vous demande si ce que vous lisez vous nourrit, si ça renverse vos raisonnements, si ça alimente votre pensée, si vous êtes nourri du pain de vie, si vous êtes rassasié de sa personne, de sa présence. Sa voix, sa présence va donner à la brebis que je suis à mon âme la force, la vigueur, le courage, la paix, la joie, les ressources, tout ce dont j'ai besoin, je le puise en lui. Pour les combats à venir. Hein, quoi ? Est-ce qu'il y aura encore des combats ? Eh ben oui. Si le Seigneur vous a remis sur pied, c'est parce qu'il y a encore des sentiers. Tu dresses devant moi une table à cause de mes adversaires. Pensiez pas qu'à partir de ce soir, c'était hamac pour tout le monde. Les verts pâturages, ça ne veut pas dire que j'aurai plus de problèmes. Être remis sur pied, ça veut dire que j'aurai plus rien à affronter. Ça veut dire que mon âme va être rassasiée de mets gras et succulents, les verts pâturages de l'âme, la paix, la force de l'âme, le repos du cœur, les ressources que j'ai puisées en lui. De façon à ce que demain, parce que oui, il y aura un demain encore avec des problèmes. Pas besoin d'être prophète pour dire ça. Il suffit de regarder la Bible. De la première à la dernière page, c'est une succession de problèmes. Il n'y a pas une page où il n'y a pas un problème. Bien sûr qu'il y aura des problèmes, bien sûr qu'il y aura des adversaires, bien sûr qu'il y aura encore des sombres vallées, bien sûr qu'il y aura encore des vallées dans lesquelles je vais devoir apprendre à m'appuyer sur le berger, où je vais m'agripper un petit peu plus à lui parce que j'ai peur, où je vais devoir apprendre que dans ma maladie, dans ma période de ceci, dans mes problèmes familiaux, dans mon désert sentimental, je vais apprendre dans ces sombres vallées, je vais juste apprendre la valeur de sa présence. Et il y a des moments, frères et sœurs, dans nos vies, Dieu n'agit pas, je vous l'ai dit, Dieu n'agit pas toujours à l'extérieur. Il y a des moments où Dieu n'agit pas à l'extérieur parce qu'il vise d'abord l'âme, il veut d'abord agir à l'intérieur. Mais Dieu agit toujours. Et il y a des moments, j'apprends dans une vallée, j'apprends juste la valeur de sa présence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On s'accroche et on y va. Être remis sur pied, être déchargé, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il va me falloir des forces nouvelles, une communion nouvelle, une visitation nouvelle. Il va me falloir des forces nouvelles pour marcher, pour avancer, pour aller plus loin, pour faire face aux défis de l'avenir. Et si mon âme ne sait pas se nourrir de lui par la foi, si le sarment que je suis ne sait pas rester greffé au cep pour que la sève et la vie du cep passent dans le sarment et l'irrigue, si je ne sais pas nourrir mon âme, recevoir sa vie, je vais faire quoi? Je vais aller où? Une fois qu'on a été remis sur pied et déchargé, il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Il faut retrouver l'intimité, il faut retrouver la table du maître. il faut réellement se nourrir. La table, c'est une métaphore, évidemment, vous l'avez compris. C'est une métaphore au même titre que le sentier. Je vous avais dit hier que je vous parlerai rapidement des sentiers de la justice. Mais en réalité, vous allez voir que ce sont des images similaires qui nous parlent des mêmes choses. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu ? Le sentier de la justice. Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice et la justice. La justice, si c'est lorsque j'ai deux enfants de donner 5 euros à l'un et 5 euros à l'autre, si c'est ça la justice, si la justice c'est que je sois équitable avec l'un comme avec l'autre, je n'ai pas besoin de beaucoup chercher. Je donne un bonbon à un gamin, je donne le même bonbon à l'autre gamin, j'ai été juste, je ne vois pas ce qu'il faut chercher, je ne vois pas en quoi c'est un sentier, je ne vois pas en quoi c'est difficile. Parce que là, c'est de la justice humaine. Dans la pensée biblique, la justice du royaume, le sentier de la justice c'est de chercher à être convenablement positionné. Être juste, nous avons été, parce que nous étions injustes, par la foi nous avons été justifiés par Jésus-Christ, le seul juste, il nous a pardonné et déclaré juste, nous avons été justifiés pour ensuite marcher dans le sentier de la justice, pour mener une vie juste dans sa justice. C'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque conflit, à chaque problème, dans chaque adversité, dans chaque injustice, j'ai besoin de pratiquer le sentier de la justice, de le chercher, parce que j'ai besoin que mes positions, mes prises de position, soient conformes aux principes révélés du royaume de Dieu révélé dans sa parole. Je me fais bien comprendre ? Sentier de la justice dans la pensée biblique, c'est être convenablement, spirituellement, bien positionné. Le fait que David, lorsque Saül cherchait à le tuer, il faut prendre position. Qu'est-ce que je fais ? Je me bats ou je lâche prise et je laisse Dieu agir ? David a pris position. Il a pratiqué un sentier, et un sentier, je vous l'ai dit hier soir, c'est difficile. Et il faut le chercher. Le gros panneau bleu autoroute A51, autoroute de la vengeance et du combat et de l'amertume, ça, c'est pas la peine de le chercher, votre âme le trouve toute seule. Mais il faut chercher la justice divine, chercher le sentier de la justice, parce que je vais commencer à pratiquer des chemins qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux du bon berger. Et quand Saül essaie de tuer David, alors que David a l'opportunité, Saül est là, David est reclus dans la caverne, vous vous souvenez de ces épisodes, David est reclus dans la caverne, et puis Saül est là un petit peu plus en avant, et là, ses hommes lui disent, ça, c'est Dieu qui livre ton ennemi entre tes mains, vas-y, il faut y aller, tue-le, débarrasse-toi de lui. Et David dit que Dieu me garde de commettre contre loin de celui qui est loin de l'Éternel un tel crime. Et il refuse de toucher. Il refuse de prendre les choses en main. Il refuse de se faire justice. C'est Dieu qui va être ma justice. Un petit peu plus tard, parce que les sentiers de la justice, ça se pratique. Parce que Dieu nous teste. Parce que le diable aussi essaye de nous tester. Enfin, il essaie de nous faire chuter. Dieu nous teste. Le diable veut nous faire chuter. Et une autre circonstance se présente. Le diable va essayer d'en tirer parti. Et puis, Dieu veut aussi que son serviteur reste dans un sentier de droiture et de justice. Et alors que Saül est en train de dormir dans le camp, Abishai dit à David, « Regarde, ton ennemi est en train de dormir. » Mais là, subtile la tentation, « Puisque tu ne veux pas le tuer, » Abishai lui dit, « Permets que moi, je plante ma lance. Donne-moi l'ordre. Dis juste un mot. Moi, je plante ma lance afin qu'on n'ait plus à y revenir. Et comme ça, ce n'est pas toi qui l'as tué. C'est moi. » Et David dit, j'aime cette parole extraordinaire, il dit, « Non, personne ne touchera un cheveu de Saül. » Je paraphrase. « C'est à l'Éternel seul. » Et j'aime beaucoup cette phrase. « C'est à l'Éternel seul d'agir. » Soit que son jour vienne sur un champ de bataille, soit qu'il meure, soit que ceci, soit que... C'est à l'Éternel d'agir. Seigneur, c'est à toi seul. Ça s'appelle un sentier de justice. C'est comme la table. Ça désigne une prise de position. Dans les difficultés, dans l'adversité, dans les problèmes, il faut que je sache prendre position. Des positions qui sont conformes à celles que le Seigneur aurait prises à ma place. Je pratique, je marche dans son sentier. Et là, ben là c'est dur. Hein. Parce que là, il y a une grosse dose de renoncement et d'abnégation. Il faut que je choisisse à quelle table. C'est pareil, c'est une autre image. C'est une prise de position. Quand je suis à une table, je ne mange pas à deux tables en même temps. Je choisis une table. Et là, je mange à cette table-là ou je mange à cette table-là. Mais je m'assois, je m'installe, je prends position, je m'installe dans une position, dans une prise de décision. Ben, je ne sais pas, quand vous, vous sortez manger quelque part, des fois, vous avez déjà entendu ça. Ah, si tu vas au resto avec ta femme, va là-bas. C'est une bonne table. Il y a des bonnes tables, hein, humainement parlant. Et il y a des mauvaises tables. Hein. Non, va pas là-bas, va pas dans ce resto. Franchement, ce qu'ils nous ont fait payer pour ce qu'on a mangé, c'était... Mais là-bas, c'est une bonne table. Il faut choisir une bonne table. Un bon restaurant. Restaurer au sens de remise sur pied, mais restaurer, restaurant, au sens aussi de ce que je vais me nourrir. Vous me pardonnez si je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se nourrissent de sandwich, un petit peu pas frais, un petit peu de la nourriture vite fait, facile. Si on est l'une des plus grosses causes de mauvaise santé, c'est la dénutrition ou la malnutrition. Parfois, on est en mauvaise santé, frères et sœurs, parce qu'on est sous-alimenté ou parce qu'on est mal alimenté. On n'est pas à la bonne table. Daniel, dans son injustice, dans cette déportation au temps de Nebuchadnezzar, la première chose que Dieu a mis devant lui par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, qui était un tyran sanguinaire, un fou furieux, la première chose que Nebuchadnezzar a fait pour tenter Daniel, il l'a invité à sa table. Les viandes sacrifiées aux idoles, les orgies, les fêtes, etc. Il a invité Daniel à sa table. Et Daniel a pris position. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et Daniel a jamais mangé à la table de Nebuchadnezzar. Et comme par hasard, à partir de ce jour-là, il a été béni en permanence jusqu'à la fin de sa vie. De 16 ans à 86 ans, il a pris position, il a été béni. Le diable aussi, frères et sœurs, a des tables pour nous. Si Dieu a une table excellente pour nos cœurs, pour nos âmes, le diable aussi, il a sa table. Et chaque jour, il faut choisir. Chaque jour, je suis amené à choisir. Est-ce que je m'installe à la table de la pureté ou est-ce que je m'installe à la table de la souillure ? Quand un jeune chrétien, une jeune chrétienne refuse d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son lit, vous voyez de quoi je parle, refuse d'ouvrir son cœur et refuse d'ouvrir son lit parce qu'elle fait plus confiance à Dieu qu'à ses besoins sentimentaux, ça s'appelle le sentier de la justice. C'est pas facile, mais c'est un bon sentier, c'est un sentier de bénédiction. C'est une bonne table. Parce que là, le Seigneur va bien nourrir ce jeune, il n'y a pas de problème. Soit je m'installe à la table du pardon, soit je m'installe à la table de la rancune. Mais il faut que je choisisse. Et vous savez quelle est la table de bénédiction. Soit je m'installe à la table de la bénédiction, c'est-à-dire bénir, dire du bien d'eux, soit je m'installe à la table de la médisance et de la critique. Soit je m'installe à la table de la grâce, soit je me mets à la table du jugement. Et dans toutes les situations, quasiment tous les jours, il faut choisir. Soit je m'installe à la table de l'humilité, soit je m'installe à la table de l'orgueil. Soit je m'installe à la table du mensonge, soit je me mets à la table de la vérité. Quand ça ne va pas dans mon âme, je fais soit comme Jérémie, je m'installe à la table de la louange, et je m'appuie sur la nature de Dieu, j'écoute pas mes circonstances, je me base sur ce que Dieu dit être dans sa parole, je m'installe à la table de la louange et de la foi. Ou alors j'écoute le diable, mon âme, et je m'installe à la table de l'apitoiement ou de l'abattement. Soit je choisis de lâcher prise et de laisser Dieu agir, ou alors je m'installe à la table du « je contrôle tout, c'est moi qui décide ». Et bien sûr, j'ai prié au nom de Jésus, bénis-moi, exauce, agis, donne, fais, délivre-moi de mes ennemis, donne-moi de l'argent, fais-le. Au nom de Jésus, je t'ai prié, amen. Ça ne marche pas. On se demande pourquoi. Vous savez si Dieu a agi dans la situation de David? Parce que la bonne nouvelle de toute cette histoire avec Absalom et Achitophel, c'est que ça se termine très bien pour David. C'est vrai qu'il a été chassé dans le désert. C'est vrai qu'on en voulait à sa vie. Si vous lisez 2 Samuel 15, 16, 17, 18, vous allez voir ce par quoi il est passé. Comment même à un moment, des hommes ont osé l'invectiver pendant... On le suivait. On le suivait quand il fuyait. Il y avait des gens qui lui lançaient de la poussière et qui l'invectivaient, qui voulaient sa mort. Et puis qui disaient, mais c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a mis Absalom sur le trône. Vous savez, il y a toujours des gens, ils voient Dieu, ça les arrange. Mais David, il n'a jamais répondu à ces gens-là. Il n'a jamais essayé de régler ses comptes. Et comment la situation s'est réglée, vous relirez, mais très simplement. Achitophel, je le dis ainsi, c'est une paraphrase, il est tombé dans le trou qu'il avait creusé pour David. Achitophel, à un moment, il s'est rendu compte qu'on ne l'écoutait plus et qu'il était vraiment mal parti. Il est rentré chez lui, il s'est suicidé. Voilà comment il a fini Achitophel. Et David n'a pas dit « Ouais, super, il a ce qu'il mérite. » Non. Absalom, quand les armées se sont rencontrées dans la forêt d'Éphraïm, vous lirez ça en 2 Samuel 18, dans la forêt d'Éphraïm, les armées d'Absalom et de David se sont affrontées. Et à ce moment-là, David ne cherche pas à tirer vengeance, ne donne pas d'ordre pour qu'on élimine Absalom, etc. Il dit « Surtout, prenez garde !» Il dit à ses hommes de guerre « Prenez garde au jeune Absalom !» Absalom, c'est un grand, il essaie de le mettre dehors. Il dit « Prenez garde au jeune Absalom !» Parce que nos petits, ce sera toujours nos petits, même s'ils sont odieux. « Prenez garde au jeune Absalom !» Parce que David, dans son cœur, il pensait que si Absalom pouvait être capturé, il y avait moyen qu'il entende raison, il y avait moyen de le raisonner, il y avait moyen qu'il se repente, il y avait moyen que la situation soit arrangée. Et il dit « Prenez garde au jeune Absalom, qu'il ne lui arrive rien !» Et si Absalom a été tué, c'est parce que Joab a désobéi à un ordre direct de David. Dans cette forêt d'Éphraïm, à un moment, il est dit « Absalom est sur son âne, sur son mulet. » Et puis il se prend dans une grande branche croisée de térébinthe. Il ne fait pas attention, il se retrouve coincé dans des branches. Alors est-il coincé par la tête, je ne sais, ou par la chevelure, ce n'est pas trop clair, mais on sait, le texte dit qu'il reste suspendu comme ça. Il est pris, l'âne s'en va, et il reste suspendu entre ciel et terre. Et quand Joab l'apprend, il ignore volontairement l'ordre de David, il prend 3 javelots, 3 lances, et il transperce le cœur d'Absalom. Mais David n'avait jamais voulu la mort d'Absalom. Et quand on lui a dit « Absalom, ton fils est mort, ça y est enfin, tu vas récupérer ton trône !» David a pleuré, il a pleuré, il a pleuré son fils. Il a dit « Non, pas mon fils, j'aurais préféré mourir moi !» Vous comprenez pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? C'est incroyable ça. Et je crois qu'on a vraiment à apprendre chaque jour en se positionnant à des tables. Oui, Dieu agit. Oui, Dieu fait justice. Oui, Dieu rétablit. Mais la table du berger est dressée et il faut choisir. Et face à tes adversaires, la seule solution, c'est de prendre position pour les principes du royaume de Dieu, de prendre position pour l'intimité de Dieu, de commencer à pratiquer ses sentiers et rien d'autre. Parce que c'est la seule table qui va bien te nourrir. Elle coûte. Oui, le restaurant de Dieu, il coûte plus cher que le restaurant du diable. Il coûte plus cher, mais il rapporte beaucoup, 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 beaucoup plus. Oui, le sentier de la justice divine est beaucoup plus difficile à pratiquer que l'autoroute que le diable met sur les boulevards qu'il place devant nous. Mais il faut choisir. Et la seule solution, c'est la table de Dieu. Le seul chemin de bénédiction, le seul chemin des eaux paisibles, c'est le sentier de la justice. C'est le chemin de la vie débordante. Tout est lié. S'il dit « ma coupe déborde », l'huile sur ma tête, ma coupe qui déborde, ce n'est pas des coups de baguette magique au nom de Jésus le dimanche matin pour que le lundi tout aille mieux. C'est parce qu'il a pratiqué des chemins et ces chemins sont approuvés de Dieu. Il a l'approbation de Dieu divine, l'approbation divine, l'approbation de Dieu. L'huile est un symbole de bénédiction, un symbole d'approbation, d'onction. Il a l'approbation divine parce qu'il est dans le sentier de la justice. La vraie question, frères et sœurs, ce n'est pas dans mes conflits, dans mes problèmes, ce n'est pas est-ce que j'ai tort ou raison, ce n'est pas est-ce que c'est la brebis de gauche ou la brebis de droite, ou moi, quelle est la brebis qui a le plus raison. La question, c'est est-ce que je suis dans un chantier, parce que des fois, c'est le chantier dans nos vies, ouais. Voilà, j'ai bien rebondi quand même. Est-ce que je suis dans un sentier que Dieu va approuver, qui va être un chemin de bénédiction? L'huile, l'onction, la bénédiction, l'approbation. Au moment où David écrit le psaume 23, ce n'est pas encore réglé. Et pourtant, il écrit « ma coupe déborde, ma vie intérieure, elle ne manque de rien. J'ai de la paix, j'ai du repos, j'ai de la joie, j'ai de l'amour à revendre, j'ai du pardon, j'ai de la compassion à revendre, j'ai tout ce qu'il faut, je manque de rien. » Ah, je manque d'un trône, je manque d'un fils, je manque d'argent, je manque de travail, je manque de santé, je manque de tout. Mais à l'intérieur, ma coupe déborde. Malgré les circonstances. Et parce qu'il est à cette table, parce qu'il est sur ce sentier, il termine avec cette phrase de victoire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai toute ma vie dans la présence de Dieu. Voyez, frères et sœurs, dans nos difficultés, dans notre adversité, dans nos conflits, dans nos luttes, dans nos chutes, dans nos échecs, dans nos péchés, dans tout cela. Bien sûr que Dieu nous décharge des fardeaux. Bien sûr que Dieu pardonne. Bien sûr que Dieu veut agir. Bien sûr que Dieu veut remettre sur pied. Remis sur pied, déchargé. Mais c'est ensuite pour avoir cette nourriture dont j'ai besoin. C'est ensuite pour prendre position à la table du bon berger, pour recevoir approbation, onction, sa vie, tous les maigras et succulents dont mon âme a besoin, la joie, la paix, l'amour, la vie de l'esprit, la compassion, la bonté, la miséricorde, la bénignité, tout ce qui fait que je vis, je suis vivant, on veut me tuer, mais plus on veut me tuer, plus je suis en vie. Parce que je mange bien. Je ne sais pas quand Dieu agira dans la circonstance qui ce soir n'est pas réglée. Hier soir, vous vous êtes déchargé. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que la situation n'est pas réglée. Et vous le savez. Je ne sais pas quand Dieu va agir. Je suis pasteur, je ne suis pas commercial, je n'ai rien à vous vendre. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne sais pas quand Dieu va agir. Je ne sais pas comment il va agir. Dieu n'a jamais agi deux fois de la même façon. Il fait exprès. C'est pour qu'on compte sur lui et pas sur une façon de faire. Je ne sais pas quand Dieu va agir. Je ne sais pas comment il va agir. Mais je sais que si je prends position, il va agir. Et il prendra soin de moi. Et mon âme ne manquera jamais de rien. Parce que le but, c'est la bonne santé de mon âme. Qu'il vous bénisse abondamment. On va prier ensemble, on va se recueillir, s'il vous plaît.